RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour à la Pierre Saint-Martin ce soir, les Pyrénées, la première étape de haute montagne de ce Tour de France, un col de 15 km qui a fait beaucoup de dégâts. On va évidemment revenir sur la performance de Chris Froome, plus que jamais en jaune ce soir, puisqu'il possède une marche importante, 2,52 sur Vanguard de Rennes et 3,09 sur Nairo Quintana. Ça sera dans un instant évidemment, avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Mais avant cela, Martial, c'est l'heure de RMC Sport. Deuxième édition avec notamment de l'escrime et une française en finale du sabre.
Exactement, Christophe, avec une première médaille pour l'équipe de France à Moscou du côté des championnats du monde d'escrime, et ce sera de l'argent finalement, Rodolphe Massé.
Mais c'est déjà pas mal, même si c'est vrai que Cécilia Berder, elle peut quitter cette compétition du sabre individuel un brin déçu, parce qu'en face d'elle en finale il y avait la Russe Velikaya, une référence mondiale du sabre féminin, et il n'y a pas à redire là-dessus, elle a un palmarès incroyable, c'est son deuxième titre mondial en individuel, elle en a trois en niveau européen, elle a une médaille d'argent olympique. Mais c'est vrai que Cécilia Berder, elle avait face à elle une redoutable tireuse, et en plus un arbitrage quelque peu à domicile. D'ailleurs la 15e touche a été une nouvelle fois litigieuse et a provoqué les huées du clan français, mais ça n'a rien changé. Victoire de Velikaya, 15 touches à 12. Ça ne retire rien à la performance exceptionnelle qu'a réussi aujourd'hui Cécilia Berder, qui décroche sa première médaille mondiale à 25 ans. La dernière fois qu'une Française était en finale du sabre individuel, c'était il y a 10 ans, c'était Annelise Touya. Le sabre féminin français vient de finir sa traversée du désert.
Et ça commence bien cette semaine à Moscou, avec demain de nouvelles chances de médaille avec l'épée individuelle masculine et féminine. Fière d'être arrivée à ce niveau-là en étant propre, Christopher Froome a frappé fort sur le Tour de France et voulu répondre à ceux qui doutaient de ses performances. Victoire d'étape au sommet de la Pierre Saint-Martin et des adversaires loin derrière. Froome gagne devant son équipier chez Sky, Richie Porte, à 59 secondes, et le Colombien Nairo Quintana à 1,04 au classement général. Le trou est fait. Froome a 2 minutes 52 d'avance sur le deuxième, l'Américain TJ Vanguard de Rennes. Quintana est à 3,09, Contador à 4,04, Nibali à 6,57. Le tour est-il plié? Réponse du maillot jaune en personne, Chris Froome.
Non, c'est pas comme ça. I mean, oui, bien sûr, j'ai gagné l'étape, mais on a beaucoup de kilomètres avant Paris. Le tour, c'est pas fini. Hein. L'équipe, ils ont fait un super travail aujourd'hui. Super, super. Avec Richie Porte en deuxième place, Geraint Thomas au cinquième. Ils ont fait un super travail pour moi aujourd'hui.
Voilà, Christopher Froome avec Pierre-Yves Leroux. Le meilleur français du jour, c'est Pierre Roland, huitième de l'étape à 2,04 de Froome. C'est bon signe pour son manager dans l'équipe Europcar, Jean-René Bernodeau.
Sa performance est exceptionnelle, puisque quand on finit huitième d'une étape où des Contador montrent leurs limites, Nibali aussi, Pierre s'inscrit dans le très haut niveau, et moi je pense que ça peut le remettre bien, parce que cette première journée après la journée de repos réserve toujours des surprises, faut pas trop s'enflammer. Il y a des coureurs qui ont aujourd'hui perdu du temps, qui vont être acteurs demain, mais Pierre aujourd'hui était dans l'allure, et ça c'est vraiment bien pour la suite du tour.
Et au classement général, le premier français ce soir, c'est Tony Galopin, 7e à 4,33 de Chris Froome. Demain, c'est la 11e étape avec toujours les Pyrénées. Ça ne sera pas un grand col pour finir, mais quand même, Pau, Cotteret, 188 km, et les cols d'Aspin et du Tourmalet au programme. Nicolas Karabatic au PSG Handball, c'est signé pour 4 saisons. Le meilleur joueur du monde encore en vacances sera à l'entraînement la semaine prochaine. Et puis ce soir, c'est réception à l'Elysée, feu d'artifice pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Soirée de gala pour les sportifs français. Louis Amar, vous êtes à l'Elysée et il y a beaucoup de monde et du beau monde.
Oui, du beau monde, près de 100 sportifs autour du président de la République en ce moment même. Il y a bien sûr ceux qui portent la candidature olympique, Bernard Lapasset, président de l'association Ambition Olympique, également Tony Estanguet, l'un des deux membres français du CIO. On trouve également à l'Elysée en ce moment Thierry Dussautoir, le capitaine du 15 de France, Marion Bartoli, l'ex-vainqueur de Wimbledon, Sabri Lamouchi, l'ancien footballeur, Jimmy Vico, le récent champion de France du 100 mètres. Bref, tu l'as dit Martial, beaucoup de beau monde. La réunion va se terminer dans quelques minutes. Les sportifs prendront ensuite la direction d'un hôtel proche du Trocadéro pour une deuxième réception un petit peu plus feutré, cette fois-ci en plus petit comité et sans responsable politique. Tout le monde repartira ensuite à quelques mètres d'ici au palais de Chaillot pour le feu d'artifice du 14 juillet, devant cette fois-ci une bonne partie du gouvernement.
Et tu as de la chance parce que tu seras avec eux. Merci Louis. 70 millions d'euros, c'est le coût du transfert du footballeur Raheem Sterling. Il quitte Liverpool pour Manchester City et un contrat de 5 saisons. Et puis demain, direction Tignes pour l'équipe de France de rugby. Les Français quittent Marcoussi pour 10 jours de stage en altitude, toujours pour préparer la Coupe du Monde qui commence au mois de septembre. 19h09 sur RMC. C'est le retour de l'intégral tour. Christophe Cessieux en haut de la montagne où Chris Froome a assommé le tour.
Exactement, Martial. Le tour assommé, le tour un peu sous le choc, il faut bien le dire ce soir, après la performance majeure de Christopher Froome qui s'est donc imposé en solitaire. Il y avait quatre fantastiques au départ du tour, il n'y en a plus qu'un. Mais alors quel fantastique Chris Froome qui a peut-être déjà tour gagné, mais ça on le dit déjà depuis quelques jours. Cyril Guimard est avec nous. Bonsoir Cyril.
Bonsoir ou rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous cet après-midi.
Voilà, qui reprend son souffle après son direct à la télé. Luc Leblanc est également avec nous. Salut Luc.
Bonsoir, je crois qu'il va y avoir un grand débat ce soir.
Un grand débat, oui, oui, les débats sont déjà bien lancés. Et Thierry Bourguignon, comme tous les soirs, en direct de la maison. Mais évidemment, il suit le tour avec beaucoup d'attention. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Thierry, comment vas-tu?
Super bien, tu vois, je vais faire le mec le focus. Non, mais tout va bien, on a vu une super étape. Non, mais mais il nous a tué le tour. Il nous a tué le tour avec son maillot jaune.
Ouais, ouais. Alors c'est vrai,
la moulinette.
Je le disais tout à l'heure, le tour est sous le choc. On va essayer d'expliquer pourquoi il est sous le choc et qu'est-ce qui nous gêne finalement dans cette victoire. Parce qu'évidemment, je veux dire, à la grande époque des grands champions du Tour de France, lorsque un vainqueur du Tour de France, un maillot jaune remportait une telle étape, il y avait pas de choc, Cyril. Pourquoi tout le monde est sous le choc ce soir? Qu'est-ce qui choque les gens en quelque sorte? C'est parce qu'on est déçu, c'est du dépit amoureux, parce qu'on espérait avec les quatre fantastiques au départ du tour que il y aurait encore du suspense après la première étape de montagne, ou c'est parce que Chris Froome surprend et de temps en temps fait naître la suspicion. Pourquoi un tel choc?
Là, d'une part, il y a sa performance où il fait des écarts énormes sur 7 kilomètres, dont seulement 3 d'ascension, puisqu'il y a quand même 4 kilomètres qui sont à 1 ou 2%, des écarts qui sont énormes. Mais la suspicion, elle ne date pas d'aujourd'hui sur Chris Froome. Elle date depuis plusieurs années.
2013, notamment. Il a quand même
eu aussi quelques soucis, rappelez-vous, sur le Tour de Romandie, où il expliquait qu'il pouvait prendre tel ou tel produit parce qu'il avait une infection pulmonaire. Avec une infection pulmonaire, on est au lit. Donc, c'est toujours pareil. C'est le mensonge, c'est le manque de clarté qui fait que la suspicion va naître. Et la suspicion sur ce tour, elle est obligée de naître, puisque l'équipe Sky ne respecte pas les règles éditées par le Tour de France d'une part, mais par les règlements de l'Union cycliste internationale. Rappelez-vous, avant le tour, il y a des règles qui ont été votées à l'Union cycliste internationale, où les motorhomes de la Sky et donc des autres qui avaient éventuellement l'intention de le faire étaient interdits. Alors, pour la petite histoire, quand on connaît le prix des motorhomes, c'est-à-dire à peu près 500 000, ils en ont 3, ça fait 1,5 million. Et on est en train de nous faire croire que c'est pour faire coucher le personnel. Comme je dis, ça fait quand même cher la paire de draps, et ça fait cher l'électricité. Donc on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces pullman qui valent aussi cher? Bon, et là, on n'a aucune réponse. Or, la règle sur le Tour de France, et c'est une règle qui a toujours été appliquée, tout du moins le plus proche possible de cette règle, c'est l'équité de traitement de l'ensemble des coureurs sur le Tour de France. Et l'équité au niveau
du
traitement...
Mais on nous dit, la Sky nous dit que de toute façon, les coureurs n'ont pas le droit de dormir dans le motorhome, donc ils ne dorment pas dedans. Dave Braceford, le manager, nous le disait avant-hier.
Bien sûr, ils ne dorment pas dedans. C'est pour ça que je dis, ça fait cher la paire de draps pour faire dormir les mécanos et les kinés.
Il y a Froome qui avait évoqué la possibilité de dormir, lui, dans un motorhome.
Oui, ça avait été évoqué, mais il y a un règlement qui a été édicté et qui leur interdit. Donc.
C'est à vérifier. Mais à cause de cela, il y a des doutes et il y a de la suspicion. Point.
Alors on va rappeler quand même le résumé de l'étape, les temps surtout, parce que là on est plus en seconde mais en minute. Chris Froome qui s'impose donc ici au sommet de la Pierre Saint-Martin en 4h22 et 7 secondes. Il devance l'un de ses équipiers. Eh oui, Richie Porte de la Sky.
C'est ce qui me dérange le plus.
Moi. Oui, voilà. 59 secondes arrivé, 59 secondes derrière Chris Froome, et qui a devancé celui qui est considéré comme le meilleur grimpeur au monde, à savoir le Colombien Quintana, arrivé troisième avec 1,04. Gesing est quatrième à 1,33. Valverde, cinquième à 2,02.
Geraint Thomas, autre coéquipier de Chris Froome, termine l'étape à la 6e place avec un retard de 2 minutes 01. Et puis les autres sont plus loin. Nos premiers Français sont là. Pierre Roland, 8e. Pierre Roland qui renaît de ses cendres après avoir vécu une première semaine de tour très difficile. Pierre Roland est 8e aujourd'hui à 2,04. Tony Galopin, c'est la bonne surprise du jour côté Français, 9e à 2,22. TJ Van Garderen, qui est ce soir toujours 2e au classement général et 10e de l'étape à 2,30. Alberto Contador, 11e à 2,51. Warren Barguil, qui a chuté dans le début de l'étape, est 15e à 3,19. Et puis alors il faut descendre un peu plus bas, il faut changer de page pour trouver Vincenzo Nibali, 21e à 4 minutes 25, Jean-Christophe Perrault, 25e à 5,38, Thomas Vauclair est 26e à 5,38 également. Et puis voilà, Thibaut Pinot, je vous l'ai dit, Thibaut Pinot, non je ne sais plus où il est, Thibaut Pinot, il est tellement loin,
il est 27e à
27e.
Oui. Au général il se retrouve à 18 minutes 18, voilà.
Voilà. Donc évidemment.
Donc, il a fini à peu près à 11 minutes. Il a dû finir à peu près, il était à 8, donc à 10 minutes, c'est ça, 10, 11 minutes.
Voilà, c'est ça, Thibaut Pinot, 49e de l'étape à 10,03. On parlera évidemment tout à l'heure des Français. Cyril Guimard fait part de son inquiétude. Lucho, est-ce que tu partages les inquiétudes de Cyril, ou est-ce que pour toi, il n'y a pas de souci en ce qui concerne Chris Froome?
Bah écoute, si à chaque fois qu'un coureur gagne une étape comme Froome l'a gagné aujourd'hui, et si à chaque fois on doit mettre la suspicion sur tout ce qui entoure Froome au niveau de l'encadrement, au niveau de l'organisation de l'équipe, bah alors on n'en finit plus. On n'en finit plus. Rappelle-toi, Cyril, début des années 90, tu as été le précurseur des bus dans le peloton cycliste. Je me souviens, avec Castorama, on avait un bus. On était en avance sur les autres au niveau de l'organisation de l'équipe.
Si à cette époque-là,
On aurait critiqué l'équipe de Cyril Guimard. Oui, mais ils ont un bus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bus? Qu'est-ce qu'ils font dans ce bus? Ils rentrent après la course dans ce bus. Oui, je le sais. Mais est-ce que toi, ça t'aurait plu à l'époque? Qu'on te lance des brandebilles,
tu vois, moi je veux bien, mais comparons ce qui est comparable. Car en fait, le bus.
Laisse-moi terminer.
Tu continueras après. Le bus, c'était. Tu avais les deux tiers du bus, c'était l'atelier vélo. Et tu avais la partie avant. C'était là où les coureurs montaient lorsqu'il fallait aller d'une ville à une autre. Soit on les mettait dans la voiture, soit on les mettait dans le bus. Et d'autre part, je n'étais pas le premier. Il y avait Louis Socagna avec.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais t'étais l'un des premiers. Donc à ce moment-là, on aurait très bien pu te jeter la pierre aussi dessus et puis dire, ben voilà, il a son bus. Qu'est-ce qu'il met dedans, dans les coffres? Est-ce qu'il met le chaudron dans le coffre?
Alors, tu parles évidemment de grandes années. Cyril, tu te fais allumer d'ailleurs par certains auditeurs ou certains tutos. D'autres, évidemment.
Ils ont raison. Tout le monde peut pas avoir le même.
Tout le monde
même
est très partagé. Très partagé, évidemment, après cette démonstration de force. Franck nous dit, Cyril, vous avez des doutes sur l'équipe du maillot jaune, alors que vous-même, ayant été directeur sportif d'une grosse équipe, vous n'auriez pas supporté de mettre en doute votre méthode de management, ainsi que l'éventuel dopage de vos coureurs et de vous-même quand vous l'étiez. S'il vous plaît, silence, contentez-vous de commenter le tour simplement. Mais évidemment, d'autres auditeurs.
Désolé, j'ai pas d'ordre à recevoir.
Il est gentil, l'auditeur. Ferme ta gueule.
D'autres, au contraire, disent que tu es le seul à dénoncer des choses, alors que beaucoup de commentateurs ne font état de rien et sont béats d'admiration devant la performance de Froome.
Tout le monde
est très partagé, c'est comme ça depuis très longtemps sur le Tour de France, peut-être depuis 1998. Donc toi, pour toi, pas de doute.
Mais il faut arrêter. Je vous dis calmement, un Français serait à la tête du Tour de France aujourd'hui et aurait gagné dans les mêmes conditions que Froome aujourd'hui. Est-ce qu'on ferait un débat sur le dopage et de savoir comment est l'organisation de cette équipe? Non. Lavellini, qui est à la perche, il a dépassé les 6 mètres. Alors, on peut se poser des questions sur sa performance en dépassant les 6 mètres et en battant le record de Bubka. Dans ce cas-là, on n'a qu'à critiquer aussi de savoir ce qui se passe autour de l'organisation, autour de cet athlète.
Non, mais faut arrêter, quoi. Les coureurs qui roulent.
Thierry, ton avis à toi. Ton avis à toi.
Ce qui me dérange le plus, c'est comme il y a 2 ans, la première étape des Pyrénées, Richie Porte se met à rouler pour Froome au pied, et puis il fait sauter tout le monde, hein, je vous rappelle. Donc il imprime un rythme effréné. Et sur le sommet, il se permet de revenir sur Quintana. Le coiffe, bon, bah, il va chercher la deuxième place. C'est ce qui me dérange le plus.
Parce qu'il est resté au même rythme.
Non, arrête, il y a Thomas Guérin et Thomas Richie Porte. Et les mecs, ils roulent comme des malades et ils coiffent tout le monde. Et c'est quand même, et on l'a dit, c'est quand même dans les meilleurs grimpeurs.
Non, je voudrais Quintana. Je voudrais contrer quand même Lucho quand il dit que Quintana a coincé. Le dernier kilomètre, sur les 1300 derniers mètres,
oui, sur le plat,
il n'a pas perdu une seconde sur Froome, donc il n'a pas coincé.
Tenez, un petit tweet qui peut vous intéresser. Un certain Lance Armstrong,
voilà,
qui vient de tweeter à l'instant même. Il dit: Clearly, Froome, Port, Sky are very strong. Too strong to be clean. Don't ask me, I have no clue. Ce qui veut dire, clairement, Froome, Port et la Sky sont très forts. Trop fort pour être propre, ne me posez pas la question, je n'ai pas d'indice, je n'ai pas de piste.
Et pour moi, c'est le remède
je vais aller plus loin, parce que dans tout ce que l'on dit et dans tout ce que je dis, je pose des questions. Alors, c'est formidable, poser une question, ça va devenir un délit. Alors, dites-moi,
on peut s'interroger,
quelles sont les sanctions? Et je dis que, pourquoi je me pose les questions? Parce qu'il y a des silences, il y a des mensonges. C'est vrai pour l'assistance électrique sur les vélos. Il y a des mensonges, et des mensonges qui sont quand même très gros. Donc, quand il y a des mensonges, et qu'il y a des silences, et qu'il y a derrière des performances qui paraissent un petit peu extraordinaires, je veux bien les accepter, mais je pose des questions.
Cyril, alors, moi, j'aimerais bien avoir des mensonges.
Comment?
Quels sont les mensonges?
Non, non, on va pas faire le débat des vélos électriques ce soir. On aura l'occasion de le faire.
Mais c'est sur les vélos électriques.
Oui.
Les vélos électriques.
Voilà, il y a
des règles qui ne sont pas respectées. Je l'ai déjà dit.
Tiens, Didier est avec nous au 32-16. Il voulait intervenir dans notre débat, débat passionné. Vous l'avez compris. Les questions que certains se posent, d'autres ne s'en posent pas. Hein, vous avez entendu. Lucho ne se pose pas de questions pour lui. Tout est clair. Didier, qu'est-ce que tu en dis, toi? Bonsoir, Didier. Mais non, mais attends.
Mais non, mais y a des gens... vous êtes bien pénibles tous. Vous êtes pénibles. Moi, j'ai mon avis personnel. Cyril, il a son avis personnel. C'est pas pour autant que moi, mon avis.
Mais j'ai l'impression que
en donnant
pas
mon avis,
ton avis,
tu critiques mon avis. Mais
non,
voilà,
Lucho,
pour Lucho, tout est clair, tout va bien.
Je te dis, tu ne te poses pas de questions. Pour toi, tout est clair, a priori.
Mais pour moi, c'est un champion qui bosse et qui a une équipe autour de lui qui est organisée pour gagner des grandes courses. Point barre.
Mais ton avis,
c'est comme une équipe de France de rugby qui veut gagner la Coupe du Monde. Ils s'organisent. Ils s'organisent pour gagner cette Coupe du Monde de rugby.
Exactement, ce qu'on a toujours dit pendant 10 ans pour Armstrong. Voilà, c'est ce qui me dérange le plus.
Et peut-être ce que tu as dit toi aussi pour Armstrong.
Didier, bonsoir Didier. Tu vois, c'est tendu ce soir dans le camion RMC. Hein.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Quel beau débat. En tout cas, il a le mérite d'être vivant et de faire passer certaines idées. Pour ce qui me concerne, c'est plutôt la performance d'ensemble globale de l'équipe Sky qui m'interpelle dans la mesure où, c'est vrai, ils ont peut-être, à part avoir donné du rythme au pied de la bosse finale, c'est peut-être tout ce dont ils ont fait, mais ils ont fait suffisamment fort pour faire un ménage. Aujourd'hui, je dirais, quel beau feu d'artifice, et c'est eux qui l'ont tiré. Donc, je m'interroge, oui, une interrogation, c'est sur la performance globale. Sur Froome, Cédric Vasseur, qui était sur la moto de France 2-3, s'étonnait de la cadence de pédalage qui était au-delà des 110 pendant un temps qui lui semblait interminablement long. Pour les noms, pour les béotiens dont je suis, j'estime que c'est effectivement se poser des questions et il n'est pas interdit de poser des questions, savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Toute question mérite d'être posée. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt sur la performance d'ensemble de la Sky où je m'interroge vraiment.
C'est comme moi. C'est plutôt l'équipe complète qui m'interroge que Froome peut le faire peut-être. Après, il y a le rythme de pédalage. Je te dis, Lucho, simplement, ce qui m'interroge le plus et ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a quelques années, on a dit la même chose. C'est un professionnel, les mecs, ils ont des méthodes d'entraînement particulières, et ils écrasaient
le tour à chaque fois qu'ils arrivaient avec leur équipe. C'est leur équipe qui écrasait complètement. Les autres n'avaient même plus le droit à la parole. Et encore, je trouvais qu'ils avaient plus la parole que sur ce tour.
Ouais, mais il y a une bêtise qui a été faite quand même au pied de la Pierre Saint-Martin. Hein. La Movistar, ils auraient jamais dû mettre en route.
Ah ben non, alors, ils pensaient être bien. Ils ont bien fait. Mais moi, je trouve qu'ils ont bien fait.
Je vais revenir à quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure pendant l'interview de Froome. Sous réserve que la traduction ait été très juste. quand on lui pose la question sur ses adversaires qui ont explosé, la réponse a été « Nous, on a su très bien gérer la journée de repos, on a su très bien faire les choses, les autres, non. »
Bah oui, mais c'est donc ce qu'on a entendu pendant 10 ans avec Armstrong. Donc ça veut dire que les autres,
ils savent pas ce que c'est qu'une étape de repos, ils savent pas. Alors je sais pas, ils sont allés à la piscine, je sais pas, ils ont fait un méchoui. Il y a que eux qui savent gérer une journée de repos. Là, je pense qu'il a manqué de respect à toutes les autres équipes et à tous les coureurs qui ont fait le métier exactement comme lui. Hein? Alors peut-être qu'il n'est pas allé dans le but. Enfin, les autres n'avaient pas des buts.
C'est pas en disant que nous on a géré la journée de repos.
C'est pas comme
ça veut pas dire qu'il est dit que les autres ont mal géré la journée de repos. J'étais même pas là. Je suis jamais là, moi.
En tous les cas, messieurs, il y a une chose qui est sûre, c'est que eux, ils l'ont bien géré, digéré par rapport aux autres, et en espérant que ce soit la journée de repos qui ait planté tout le monde.
C'est-à-dire que les autres, c'est des idiots, ils sont incapables de gérer une journée de repos.
Non, ils l'ont mal géré.
En substance, c'est ce qu'il a voulu dire.
Messieurs, vous voulez entendre quelques petites réactions à ce que vous venez de dire?
Vas-y.
Ça vous énerve?
Vas-y. Il y a un débat, on peut écouter.
À mon âge, j'ai déjà tout entendu. Donc...
On peut écouter
Olivier qui nous dit
aussi.
Pathétique Guimard, si c'était un Français, c'eût été un grand champion. Là, évidemment, c'est quelqu'un qui le critique, il y en a d'autres qui au contraire, te soutiennent. Guillaume qui nous dit Luc Leblanc qui défend l'indéfendable alors qu'il était dans le système dans les années 90.
Voilà,
ou encore Thierry Kiki qui nous dit 100% soutien à Lucho. Quand on aura des preuves, on l'ouvrira. Là, on brasse du vent. Voilà, et vous voyez, les avis sont diamétralement
opposés. Je vais répondre à ce Twitter
en lui disant qu'à chaque fois qu'on a réussi à avoir des preuves, c'est pas par les circuits fédéraux, c'est par la police. Alors est-ce qu'il faut que la police arrive une nouvelle fois? Ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est toujours la police qui a sorti les affaires.
Voilà, Alessandro qui te soutient également tout en nous attaquant. Il nous dit merci Luc Leblanc pour ta voix discordante. Voilà, je ne sais pas si elle est discordante parce que dans l'ensemble du tour, tout le monde est plutôt ébahi par la performance.
Mais on peut être le seul contre tout le monde et avoir raison.
Attention, on n'a pas dit qu'on n'était pas ébahi.
Moi, je suis vraiment ébahi par la.
Bon, après, on peut s'interroger aussi sur la validité, parce que je te dis et je le répète, il y a quelques années, on nous disait de toute façon, on était des méchants en s'interrogeant. Les autres étaient stupides et qu'eux, ils savaient s'entraîner. Voilà.
De toute façon, Thierry, on vit dans un monde de suspicion, que ce soit dans le sport ou ailleurs. De toute façon, dès qu'on lève le petit doigt, dès qu'on veut faire quelque chose ou dès qu'on réussit quelque chose, il y a toujours de la suspicion. C'est toujours pareil, que ce soit dans une entreprise ou dans le sport, tu fais ton entreprise, tu réussis ton entreprise, il y a Anguille Souroche, et voilà. C'est tout pareil, c'est cette société de...
C'est la critique,
c'est toujours facile de pouvoir critiquer sur internet et tout ça, sur des réseaux, machin truc, voilà, on peut y aller. Allez-y,
il y a quelques instants s'est dit fier d'être arrivé à ce niveau en étant propre, là, ce qu'il a sorti, qu'il a déclaré tout à l'heure.
C'est ce que disait Armstrong aussi.
Oui, non, mais ok.
Ouais, voilà, compare pas, Cyril.
Très bien, merci à Didier en tous les cas d'être venu au 32-16. On va continuer, on va essayer de calmer tout ça. On va parler des autres, des pseudos fantastiques qui ont pris quand même de beaux éclats dans les dents aujourd'hui. Notamment Nibali, vainqueur sortant, Contador. Et le seul qui a presque résisté, c'est Nairo Quintana. Et puis on va évoquer le Waterloo des Français. 1-14 juillet. Voilà pour la suite de notre intégral tour. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour en direct de la Pierre Saint-Martin ce soir avec des voix opposées. Cyril Guimard, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon ne sont pas d'accord, mais c'est pour ça. C'est pour ça, vous savez que sur RMC, tous les avis sont bons, et même si vous nous critiquez, on lit vos avis sur le hashtag RMC Lac. Donc continuez à nous critiquer ou le contraire, hein. On aime aussi les
compliments.
Les compliments, surtout Lucho,
j'adore. Non, pas du tout. Je m'en contrefiche, je dis ce que je pense, et puis voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Je
m'en fous.
Je m'en fiche complètement. Je dis ce que je pense. Après, ça plaît ou ça plaît pas. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Donc
exactement.
Voilà.
Mais si on critique,
c'est que on porte une certaine attention. Voilà. Hein, quand on critique, c'est qu'on porte une certaine attention.
Que j'ajouterais quand même,
c'est tout.
Parce que moi, je suis très.
Alors, messieurs,
j'ai quand même certaines valeurs.
Ne vous emballez pas sur les.
C'est facile
sur les réseaux.
C'est facile sous forme de surnom anonyme de dire tout ce qu'on veut.
Voilà.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que.
Non, c'est pas anonyme. C'est des.
Ah bah si, Pierre 92.
Beaucoup d'anonymes.
Attends, je suis désolé. Là, moi, je viens de recevoir des trucs où c'est le nom qui est en face. Donc, je sais qui a dit. C'est-à-dire que là, c'est surtout sous le couvert de l'anonymat.
Non, mais ils sont pas tous anonymes. Tout le monde n'est pas anonyme.
Non, mais c'est pas grave. C'est pas dérangeant du tout.
Mais tous les avis sont bons à entendre, messieurs.
Voilà.
Très bien. Alors, après la performance de Froome, qui a donc écrasé le tour, qu'il a quasiment plié, parce qu'on voit pas vraiment comment il pourrait avoir une contre-performance vu l'état de forme actuel. Est-ce que vous avez été déçu par les pseudo-fantastiques, et est-ce qu'ils peuvent, que peuvent-ils espérer désormais? On va commencer par les écouter, hein. Quintana, Contador et Nibali, on va commencer par Quintana, qui est le seul à s'en être à peu près sorti à moindre mal. Nairo Quintana, le meilleur grimpeur du monde, battu donc par Chris Froome et par Richie Porte aujourd'hui.
Il est aujourd'hui plus fort qu'on pouvait l'imaginer. De mon côté, j'ai de bonnes sensations. On va voir jour après jour comment gérer la course. Je vais continuer de faire mon possible pour récupérer du temps. Je vais essayer de continuer de rêver, continuer de penser que c'est possible. On réfléchira à des stratégies pour y arriver.
Voilà, des stratégies, il va falloir en trouver pour Nairo Quintana, qui est donc au général troisième ce soir. Il est sur le podium à 3.09 de Chris Froome. C'est un peu moins bien donc pour Alberto Contador, qu'on va écouter. Alberto Contador qui a pris un bel éclat aujourd'hui. Pour lui, le doublé de Giro Tour de France, ça va être compliqué. On l'écoute, Alberto Contador.
C'était un mauvais jour pour moi. Je n'arrivais pas à respirer, à suivre ce rythme. Froome nous a montré qu'il était trois tons au-dessus de nous. Il l'a fait avec autorité. Alors je vais voir jour après jour ce que je peux espérer. S'il est encore possible de penser au général ou s'il faut déjà penser à autre chose, il faudra prendre des décisions.
Des décisions, nous dit Alberto Contador, sixième au général ce soir, avec un retard de 4 minutes 04. Et puis, le dernier, celui qui a le plus mangé aujourd'hui, pourrait-on dire, c'est le vainqueur sortant du Tour de France, Vincenzo Nibali, qui est ce soir dixième au général, avec un retard de quasiment 7 minutes. Il est à 6.57. Le requin de Messine a perdu des dents. On l'écoute.
Tout le monde a perdu du temps. Je pense à Contador, à Quintana. Froome nous a fait une démonstration brutale. Tous les autres leaders ont flanché. Moralement, c'est difficile. Pour moi, cela va être compliqué. Physiquement, je suis bien, mais je ne sais pas. J'ai l'impression de ne même pas être le frère du Nibali qui a gagné le Tour l'an dernier.
Terrible, hein, terrible.
Pour lui,
la déclat de Nibali.
Même pas
l'impression d'être le frère de celui qui a gagné l'an dernier. Il est complètement abattu, on le comprend, parce que quand on est vainqueur sortant, qu'on arrive sur le Tour avec de grandes ambitions, dès la première étape de montagne, prendre un tel éclat, Cyril, c'est terrible pour l'orgueil du champion qu'il est.
Oui, mais je pense qu'il était au courant avant le départ. Hein. Vous savez, quand vous explosez dans la côte de Mur de Bretagne, ouais. Ça veut dire que vous n'êtes pas au point. Et regardez qui avait pété dans la montée de Mur de Bretagne, c'était quand même qu'un seul kilomètre à 10% et le reste à 2 ou 3%. Il a pété, il a été devancé par 30 coureurs. Ça a été vrai pour lui, ça a été vrai pour Bardet et ça a été vrai pour Pinot. Or, les trois ont pété parmi les premiers quand il y a eu l'attaque du col. Donc, quand vous n'êtes pas dans le coup, dans une côte comme le Mur de Bretagne, vous savez que vous n'êtes pas au point.
De toute façon, depuis le départ du Tour, Nibali est...
Il n'est pas dedans.
Sur les pavés, c'est la seule étape où il a montré de belles choses, mais ouais. Il n'a pas réussi à faire la différence. Non plus.
C'est vrai que
par rapport à l'étape des pavés, on s'attendait à mieux quand même. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a été surpris de voir Nibali coincé dans Mur de Bretagne.
Ouais. Alors Nibali, bon, on comprend qu'il en a gros sur la patate. On ne sait pas s'il va finir le Tour.
Alors deux choses. Rappelez-vous ce que j'avais dit en haut de Mur de Bretagne. Nibali, quand il y a 30 coureurs qui finissent devant, tu ne peux pas gagner le Tour. Donc tu n'es plus dedans. Mais lui, il le sait.
Et Vinokourov, qui est tout sauf un idiot, il le sait aussi. Les directeurs sportifs le savent. Donc dans la tête, en plus, il n'y est plus. Donc est-ce qu'il va finir le tour? Ça, c'est un autre problème. Mais je vais revenir à Contador. Vous avez entendu sa petite phrase à la fin? Il va falloir prendre des décisions. Or,
des décisions le concernant?
Bah oui.
Ça veut dire
est-ce que je rentre pas à la maison tout de suite?
Ah non,
Et je vais préparer le Tour d'Espagne, parce qu'on s'aperçoit que Contador, il marche surtout au Tour d'Espagne, au Tour d'Italie, mais que depuis 2010, dans le Tour de France, il est plus que juste.
Très bien, Alberto Contador, Thierry, ton favori avant le début de ce Tour de France. Oui.
On a tous pris bon, hein. Je vous rappelle. Non, mais là, franchement, ben un après les autres.
Vas-y.
Chacun leur tour, ils ont sauté.
T'es en train de faire une Contador, là.
Tu sais.
T'exploses.
L'embrayage, c'est pédale gauche.
Quintana a coincé un peu aussi. Nibali, encore un peu plus. Mais franchement, on s'attendait pas à tant de dégâts après cette étape. Moi, je me fais souci. Oui, souci pour Contador, souci pour Nibali, parce que c'est des leaders, et à partir du moment où ils sont plus dans l'allure, alors ouais, c'est la première étape, c'est une montée sèche, on va le répéter, on va donner un peu du rêve, parce que j'ai entendu Quintana qui disait aussi dans son discours qu'il fallait qu'il rêve encore un peu pour essayer de finir le tour, hein, aussi, hein, parce que autrement, s'il n'y a plus de rêve, ils restent à leur place, et puis
Quand tu commences à parler comme ça, ça veut dire que tu acceptes la domination.
Est-ce que tu arrives à rêver aujourd'hui, après ce que tu as vu aujourd'hui.
Ben oui, donc à partir du moment où tu dis, tu parles comme ça, ça veut dire que tu acceptes la domination.
Alors attends, moi j'attends de voir demain et après-demain. Il y a deux
grandes étapes, il y a trois cols
qui peuvent changer. Je l'espère, ça peut être différent.
Faut pas rêver, je le sais, Cyril. Mais bon, on a tout le temps, tous le droit de rêver un petit peu. Donc demain, c'est vrai que c'est pas une montée sèche, il y a trois cols. Donc
on parlera de l'étape de demain tout à l'heure, messieurs, comme d'habitude. Vous savez, c'est en fin d'émission. Un petit mot sur Quintana, qui est le seul des fantastiques du départ du Tour de France.
Regarder les narines en dehors de l'eau.
Avoir surnagé. Bon, il termine troisième, il est pas si loin que ça. Il a pris qu'une minute, hein, une 0,4 par Chris Froome.
C'est une minute de trop, quoi.
Ah, c'est une minute de trop, surtout qu'elle vient s'ajouter à d'autres secondes et d'autres minutes perdues.
Ça lui fait quand même un peu plus de 3 minutes au classement général. C'est vrai que c'est lourd à combler quand même. Si Quintana, c'est peut-être le meilleur grimpeur du monde, aujourd'hui, le meilleur grimpeur du monde, il fait deuxième derrière Froome.
Troisième,
Richie Porte, voilà. Donc bon, c'est vrai que ça va pas être évident pour lui de pouvoir combler le trou qu'il a par rapport à Froome. Après c'est vrai qu'il va falloir attaquer de bonheur. Je le dis, je le répète, il faut prendre des risques.
Est-ce que c'est une contre-performance?
Il faut éliminer les équipiers. Il faut limiter. Excuse-moi, Christophe. Richie Porte. Là, il faut le.
L'embrayage.
Voilà, il faut essayer de le sortir avant la dernière montée, quoi.
C'est pas évident, mais lui aussi est en pleine forme. Thierry, c'est une contre-performance aujourd'hui de la part de Quintana pour toi?
On avait l'habitude d'un grimpeur et d'un gars qui pouvait monter avec des à-coups. Là, le premier à-coup qu'il a pris de Froome.
Il était surpris.
Il n'était pas surpris, il était dans la roue.
Il s'attendait pas.
Il n'a pas pu répondre, c'est tout. Il n'a pas la jambe de Froome, ça c'est clair. Il n'y en a pas un qui a pu répondre. Il y a un moment, il nous a fait croire. En plus, c'est un bon acteur, ce Froome. Il y a un moment donné, il laissait partir ses deux équipiers en faisant croire qu'il était un peu juste pour aller les chercher. Ouais. Et puis juste derrière,
il jouait le misérable.
Il a mis le compte à tout le monde après. Bon, après, il y a pas que Quinta. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange. Quand tu dis c'est Waterloo pour les Français, non. Pour les Français qu'on attendait, oui. Mais c'est pas si catastrophique.
Alors, les Français, on va en parler dans un instant. Henri Pierre est avec nous au 32-16. Henri Pierre, habitué d'RMC, qui intervient souvent dans nos émissions. Bonsoir, Henri Pierre.
Bonsoir toute l'équipe, bonsoir Cyril, bonsoir Lucho, Thierry.
Bonsoir Henri-Pierre.
Bonsoir à vous tous. Luc, je veux m'adresser à toi directement là, parce que d'habitude je t'adore et aussi soir je t'adore encore plus que d'habitude.
C'est gentil. J'ai eu peur. Bon,
voilà, tu me régales encore plus que d'habitude.
Ah, c'est gentil.
Parce que je trouve que tu as répondu à des trucs et tu as été très pertinent, donc c'est très bien.
Merci,
alors pour en
merci.
Revenir, Contador, si on m'a bien analysé là, Contador, il a fait le tour d'Italie. Est-ce que qu'ils prennent 3 minutes là, alors que là, ça a vraiment été la grosse étape où tout le monde a voulu se rentrer dedans, qu'ils ne soient pas au top et qu'ils en prennent 3, je pense que, bon, c'est explicable, donc on disait, bon.
Et Richie Porte, c'est explicable aussi?
Richie Porte, c'est-à-dire quoi, Richie Porte?
Ben, Richie Porte aussi, il était, me semble pas vraiment.
Non, mais il a arrêté le Tour d'Italie.
Oui, ben, le Tour d'Italie, donc, il était à l'agonie totale, hein.
Voilà, mais d'ailleurs, c'est même ce qu'avait dit Froome. Il avait dit, c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée, parce que il a arrêté, il va être frais sur le Tour de France, il va pouvoir m'aider. Je pense que ça se vérifie à ce qu'il dit. Mm-hmm. Après, on va dire Nibali. Bon, Nibali, comme l'a dit Cyril, depuis le début du Tour, il est aux abonnés absents, donc je vois pas en quoi aujourd'hui. Il aurait pu devenir le surhomme, le fantastique, quoi. Hein. Pour l'instant, il était le fantastique absent, et il a prouvé qu'il est encore plus absent aujourd'hui.
Alors, je peux te poser une question?
Bien sûr, volontiers.
Pourquoi Contador qui a fait le Tour d'Italie, ça s'explique. Et pourquoi ça s'explique? Nibali n'a pas fait le Tour d'Italie et ça s'explique aussi.
Ouais, mais le problème, c'est que Nibali, l'année passée, c'était peut-être pas le même tour non plus. Il a manqué quand même 3 de prétendants: Quintana, Contador et Froome. J'ai l'impression que ça allait moins vite, moi. C'est une impression. Mais ah bah, là, peut-être que Nibali, il a une patte en dessous, voire 2 que ce qu'il y avait l'année passée. La preuve, on avait des Français aussi l'année passée. Et aussi, aujourd'hui, on sent bien que c'est dur pour eux. Encore que Pinot, il a quand même été magnifique et fantastique sur le Tour de Suisse. Donc, là aussi, on pourrait... Donc, par contre, après, moi, où vraiment ça m'interpelle, c'est quand on critique l'équipe Sky, ou comme d'autres, mais je crois qu'ils ont donné une leçon qu'il va falloir qu'ils méditent les Movistar. Là, une fois de plus, cela dit tout à l'heure, est-ce que c'est normal ce que fait Valverde à un moment donné? Est-ce que c'est normal ce que font en attaquant au pied, comme ça, en mettant dans le feu? À un moment donné, on voit Valverde, quand il reste 5 ou 6, c'est vraiment des cadeaux, il met une mine à un moment donné, il attaque. Même Porte... Et comme il s'appelle, c'est Thomas Guérin qui a mené Froome. À ce moment-là, ce regard, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il ramène Froome, c'est-à-dire il ramène le groupe sur Valverde. Et à un moment donné, il se laisse reprendre. Là, je me dis, bon, Quintana va attaquer. Parce que ça veut dire que là, il préparait quelque chose de Quintana. En fait, non. Il ressort Valverde une deuxième fois. Je me dis, je comprends pas. Les autres le ramènent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il pense, Froome? Il se dit, si Quintana avait été bien... Il aurait attaqué. Résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, lui. Je pense que dans maintenant ou jamais.
Oui, Henri-Pierre, tu sais pourquoi il a fait ça, Valverde?
Je sais pas, non. Je me
parce qu'ils écoutent RMC et qu'ils ont entendu Lucho dire qu'il fallait attaquer au pied pour faire sauter Froome.
Ah, d'accord, c'est possible.
Non, mais... Comme c'est quelqu'un qui parle très très bien et que vous admirez dans son positionnement, il faut dire que à chaque fois il a dit il faut attaquer au pied, il faut pas attaquer dans le final. Donc Valverde, il l'a écouté.
Voilà.
Très bien, merci.
T'es jaloux,
merci Henri-Pierre en tous les cas.
Bon, Lucho, tu sais quoi? J'aimerais te dire qu'un truc. Je vais passer les 3 étapes des Alpes, j'aimerais bien, et j'espère pouvoir te rencontrer.
Ah ben, avec plaisir. Vous serez où alors dans les Alpes?
Eh ben, moi, je vais faire l'étape de Gap. Je serai dans le col de Mans. Après, on va faire la journée.
Quand vous voyez la voiture, la Lucho Mobile RMC, vous faites un coucou parce que moi, je peux pas voir tout le monde. Donc, si vous mettez pas au milieu de la route, je pourrais pas vous voir.
Allez. Mais si vous voulez venir me voir, ce sera avec plaisir. Aussi, hein.
Ah, mais Cyril, t'auras le dessert.
Allez, merci Henri-Pierre, merci beaucoup d'avoir fait le 32-16 pour intervenir dans notre débat. Messieurs, on parlera un petit peu des Français tout à l'heure. On va peut-être commencer parce que c'est un peu Waterloo aujourd'hui pour ce 14 juillet, notamment Waterloo pour tous ceux qui nous ont fait rêver l'an dernier, à savoir Pinot, à savoir Perrault et Bardet. Bardet qui a été le premier à craquer. Là aussi, on se doutait que pour Pinot et Bardet, ce serait difficile vu la première partie de Tour de France. Ça s'est vérifié aujourd'hui. Hein. Décidément, les tours se suivent se ressemblent. Pas forcément, Cyril. Hein.
Ben, c'est vrai pour Nibali, c'est vrai pour les Français, c'est vrai pour Froome, c'est vrai, à moitié vrai pour Contador. C'est vrai, les années se suivent et ne se ressemblent pas obligatoirement.
Et pour nos Français alors?
Ben, les Français, ils sont pas dedans, mais je voudrais quand même vous faire remarquer que bien avant le départ du Tour, j'ai toujours mis en garde l'euphorie qu'il y avait sur les Français. Ils peuvent gagner, ils peuvent être sur le podium.
On était tous d'accord
par rapport
là-dessus.
Et on a tous on a été plusieurs à dire attention, l'an dernier c'était un tour, cette année c'en est un autre, et effectivement Mais on a toujours dit aussi qu'à la pédale, les Français n'étaient pas au niveau des meilleurs.
On va écouter tout de suite Thibaut Pinot après l'étape. Il est arrivé vraiment très loin. Je donnerai son classement dans quelques instants. Thibaut Pinot, donc après la ligne d'arrivée.
Cette année, je joue pas du tout dans le même cours, donc ça, je suis pas dans le même jeu qu'eux, donc voilà. Ouais, voilà, des années comme qui sont comme ça, c'est comme ça. On a fait une belle saison jusque là, on arrive sur le tour, on n'est pas à notre niveau, et voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Hein. Bah, l'état d'esprit, voilà, on va essayer de se battre maintenant. Maintenant, je sais qu'à la pédale, voilà, c'est clair, c'est fini. J'ai pas les jambes. J'espère récupérer mes jambes en troisième semaine, mais dans les Pyrénées, je vais pas retrouver mes jambes de l'an dernier, ça c'est sûr.
Voilà, Thibaut Pinot, je vous rappelle, 49e de l'étape à 10.03. Il a pas de jambes sur ce Tour de France dans les Pyrénées. Il espère peut-être les récupérer dans les Alpes. Messieurs, on va s'interrompre quelques instants. On va prendre la direction de Moscou, puisque vous le savez tout à l'heure, Cécilia Berder a décroché la médaille d'argent au championnat du monde. Elle est en ligne avec nous aux côtés de Rodolphe Massé. Bravo Cécilia, je suis très fier de toi.
Merci Christophe, c'est gentil.
Tu peux l'appeler professeur. Hein.
Professeur, monsieur Christophe. Il est grillé là.
Ah ouais, non. On est très fiers de toi avec Rodolphe. Bon, évidemment, t'es pas passé loin de la médaille d'or, ça aurait été encore plus beau, mais là, décrocher, c'était impossible face à la rue chez elle, c'était compliqué. Hein.
Tout est possible dans le sport. Il m'a manqué un petit grain de folie quand même à la fin. Peut-être des décisions un peu plus claires. Et respect quand même pour Velikaya. Elle est au-dessus. Voilà, c'est le fédéraire de notre sport. Donc, bravo à elle. J'aurais aimé cette médaille d'or. Mais voilà, dans quelques instants, je vais vraiment me rendre compte que cette médaille d'argent est très belle. Donc voilà, ça reste une belle journée quand même.
Une très belle journée. À un an des Jeux en plus. Donc là, voilà, t'es lancé pour aller nous chercher une médaille aux Jeux Olympiques. Et la plus belle.
Je signe direct. Si t'as un contrat, je signe direct sur ça. Mais voilà, le chemin est encore long. Il reste toute une saison de Coupe du Monde. Les Jeux, j'y pense pas encore. Voilà, je pense déjà note par équipe en fin de semaine. Et les Jeux, ce sera plus tard.
Ouais. Voilà. Ouais, parce que Christophe, ce qu'il faut préciser, c'est que pour se qualifier pour les Jeux, le plus direct, c'est quand même de qualifier l'équipe.
Exactement.
Comme ça, on est sûr d'avoir trois filles qui disputent les épreuves individuelles. Donc l'importance de l'épreuve par équipe qui aura lieu dans 3 jours.
Exactement. Si on est dans le top 5 mondial au niveau de notre équipe, eh ben on sera qualifié pour Rio. Donc voilà, y aller avec des copines, c'est bien mieux.
Voilà. Et après Rio, pourquoi pas un petit contrat RMC Sport, parce que Cécilia est aussi douée en journalisme au sabre. Hein. Donc comme ça au moins, hein, Rodolphe, tu fais signer contrat tout de suite, s'il te plaît.
Ah ben moi je veux bien faire signer. Alors, le problème c'est qu'on a de la concurrence, Christophe, parce que avec les nouveaux dispositifs ministériels, Cécilia a peut-être des perspectives bientôt. Ah. Mais c'est vrai, on va en le dire rapidement, Cécilia. Oui. Tu t'orientes vers le journalisme et en plus tu as choisi le plus beau des médias,
exactement, le plus pur, le plus efficace, le plus émouvant, voilà, la radio. Si je pouvais faire ma seconde vie dans la radio, je serais très heureuse, donc parce que j'adore ça et on vit des émotions aussi fortes, donc voilà, d'abord l'escrime et après pourquoi pas la radio, avec plaisir.
Merci Cécilia, voilà. Bravo, on t'embrasse.
Merci,
très fort
merci.
Depuis la Pierre Saint-Martin au sommet des Pyrénées. Voilà,
CV est envoyé.
Ah non, mais attends, je te jure qu'elle est très douée. Elle est très douée dans tout. Il y a des gens qui sont surdoués et elle fait partie des surdoués. Très bien, 19h48, on revient dans un instant pour continuer de débriefer cette 10e étape du Tour de France. On va parler quand même des Français qui ont marché aujourd'hui. En l'occurrence, Barguil qui a chuté, qui est remonté sur son vélo et qui a fait plus que se défendre aujourd'hui, et puis de Tony Galopin qui nous surprend jour après jour. On en parle dans un instant et puis on va aussi évoquer l'étape de demain, parce que la montagne c'est pas fini, même si le Tour semble un peu plié, il y a encore de belles étapes et de sacrées cols à franchir d'ici l'arrivée sur les champs dans 12 jours. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
L'Intégral Tour, toujours en direct de la Pierre Saint-Martin au sommet des Pyrénées, le premier sommet des Pyrénées. Il y en aura d'autres, on va en parler dans quelques instants avec les étapes de demain et d'après-demain. On va parier dans une petite minute. Messieurs, juste un petit mot quand même sur les Français qui ont montré de belles choses aujourd'hui. Pierre Roland termine huitième de l'étape. On croyait qu'il était à la rue. Bah voilà, dès que la route se cabre, on le retrouve. Tony Galopin, 9e. Et Warren Barguil est un petit peu plus loin, 15e, alors qu'il a chuté et qu'on a bien cru qu'il allait abandonner, Thierry, à un moment donné, hein, quand même. Hein.
Oui, parce qu'il est resté un long moment par terre, en grimaçant, et puis tu vois, il s'est remis sur le vélo, mais on sentait pas le gars qui avait envie de revenir rapidement, et c'était inquiétant. Bon, bah là, en fait, il a minimisé la chose, parce qu'une mauvaise journée comme ça, avec une gamelle sur ouais. En roulant sur une musette, je crois, c'est franchement dommage, parce que c'était un espoir. Bon, après, s'il y a rien de cassé, que de toute façon il y a rien de cassé, mais avec passage sur la table de massage et le kiné derrière, l'ostéo, j'espère que demain et après-demain il pourra nous montrer autre chose.
Eh ben, on espère. On l'écoute. Tiens, Warren Barguil interrogé après la ligne d'arrivée. Warren Barguil, 15e de l'étape aujourd'hui à 3:19.
Ouais, j'étais vraiment au bord et je me suis vraiment motivé. Je me suis dit, j'ai pas fait autant de sacrifices pour rien. Et au pied de la montée, j'ai vraiment tout donné. Je me suis dit, tu vas faire avec et on va voir. Et j'ai vu que Nibali a sauté. Je voyais Rodriguez qui était pas bien. Du coup, ça m'a encore plus motivé pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Bah, j'ai rien de cassé. Je suis assez solide. Je suis formé. En Bretagne, on est forgé dans un roc et j'espère que c'est ça. J'ai rien de cassé, j'ai des plaies et j'espère que demain ça va aller. C'est une étape que je connais bien et j'espère que ça ira. Faut garder le sourire et garder l'envie sur ce tour.
Voilà, c'est ce que disait Cyril dans le direct tout à l'heure. Les Bretons sont forgés dans le granit. Il est costaud, Warren. Il va récupérer, hein, Cyril.
Bien, je l'espère, oui. Mais vous savez. Lorsqu'on est victime d'une chute où on se fait mal, où ça a tapé, il faut attendre le lendemain matin quand même pour voir exactement l'ampleur des dégâts. À chaud, il y a des choses qui passent. Non, on va voir s'il n'est pas touché au niveau des articulations, surtout au niveau de la hanche, mais également au niveau du genou, au niveau des tendons, et au niveau des ligaments. Ça reste à voir, présente demain matin.
On verra ça demain matin, Warren Barguil, ce soir 9e au général, à 6 minutes 12. Il est le deuxième français. Le premier français, c'est toujours Tony Galopin qui nous surprend jour après jour. On aura l'occasion d'en reparler. Messieurs, c'est l'heure des paris. On accueille Benoît Boutron.
Les paris RMC, Tour de France.
Salut Benoît.
Salut la Dream Team. Salut à tous.
Salut Benoît.
Bon, qui avait donné Chris Froome? Il y en a certains qui l'avaient donné, hein.
La grande info de cette journée, oui, messieurs, c'est que le porteur de maillot à poids est une femme, Virginie Fulpin. Elle a eu Chris Froome et du coup, tac, elle décroche le maillot à poids de meilleur grimpeur.
À force de mettre bien tous les jours, ça lui va bien les poids. Je trouve qu'elle est magnifique en poids.
Voilà. À poids. En tout cas, elle est meilleure que vous pour l'instant dans ce classement.
Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui avait donné Chris Froome.
Personne.
Victoire d'étape.
Personne. Quelqu'un, moi, il y a quand même moi.
Non, mais mis à part Virginie.
Mais Virginie, c'est personne.
Avec Bourgui.
C'est sympa.
Vous avez un petit couple, tous les deux, c'est fini.
Non, mais pour toi.
Pour toi. Non, mais personne dans la Dream Team. Virginie, elle n'est pas Dream Team. Virginie,
on a fait trois. Quand on fait trois, on peut pas se
comment
contenter
il rame le Christophe Cessieux.
Ah oui, là,
il a pris un éclat.
Virginie, on dirait Nibali. Se moquer de mon short en jean.
On dirait Nibali dans une montée.
Non, pire que ça.
Demain, on va changer de sujet parce que vous m'énervez. On va changer de sujet. Donc, l'étape de demain, Benoît, l'étape traditionnelle des Pyrénées avec Aspin, avec le Tourmalet.
Oui.
La côte de Cotteret pour terminer et puis l'arrivée à Cotteret. C'est pas une arrivée en altitude, véritablement, mais bon.
C'est un profil un petit peu différent. Certes, on a deux cols très difficiles avec l'Aspin et le Tourmalet. En revanche, on termine par une côte de troisième catégorie. Donc, pourquoi pas une échappée? C'est la question que je vais vous poser, messieurs. Ouais, le favori de cette étape, c'est Valverde, 6,50. Nibali est le deuxième favori, cote de 8.
Oui, parce qu'il descend bien, mais bon, il monte pas bien. Donc,
après, on a Purito à 8, Froome est à 16.
Il fait que les descentes.
Moi, j'ai envie de tenter Rui Costa, pourquoi pas. Cote de 20.
Rui Costa, premier à être lâché aujourd'hui. Hein.
Non, mais il est loin en général. Il peut tenter un coup, pourquoi pas. Cote de 20, ça va être pareil.
Il aime bien ces coups-là, oui.
Ouais.
Une échappée au long cours.
Je vais jouer le portugais.
Pour Rui Costa. Très bien, tu joues le portugais. Lucho.
Ah non, moi, c'est le dernier. Moi.
Ah non, maillot jaune.
Maillot jaune, les gars.
Non, maillot jaune.
Non,
c'est toujours maillot jaune.
Le maillot jaune, c'est resté.
Dépêchez-vous, messieurs, il nous reste 30 secondes. Donc, si vous voulez perdre du temps.
Cyril.
Allez, Cyril.
Moi, je suis sec là.
Ah bah ouais.
Bon, Thierry, pendant que.
Et moi, je vais jouer vraiment un truc de folie.
Vas-y.
Hein, parce que un certain Thomas m'a surpris aujourd'hui.
Ah, donc,
il sort de l'eau, il est capable de tout et il prendrait l'échappée du départ. Ça m'étonnerait
Côte
pas.
Code de 30, Thomas Voeckler. Pas mal.
De toute façon, demain, je vois personne à part lui.
Compliqué.
Ok, Cyril, il est toujours sec. Moi aussi, je suis sec, j'ai aucune idée. De toute façon, j'en ai pas donné un depuis le départ.
Christophe, t'es à moins 100, faut réagir.
Non, mais j'abandonne le tour. J'abandonne le tour, j'en ai marre de vous.
Non,
moi, je vais quand même vous donner un nom, mais je sais pas s'il marche autant qu'il y a quelques temps. Mm-hmm. Creutzwijk.
Eh oui, et il est à 28, Steven Creutzwijk.
Il est à 28.
Lucho, arrête de rigoler bêtement.
Jaune, en plus, il s'est fait.
Parce que là, tu vas dire
il
quoi
il s'est fait féliciter par les auditeurs, donc tout va bien. Ah
ouais. Vas-y, Lucho. Il est
sur son ego est.
Vas-y, Lucho.
Est au plus haut.
Eh ben moi, je l'ai vu à la planche aujourd'hui, il était mal comme tout, mais à mon avis, il a fait exprès pour demain.
Ouais.
Je vais mettre Kaczowski. Ah, mais Cyril aime bien le donner habituellement.
Non, mais t'es malade.
Code de 30, ça aussi.
Et l'autre, il n'en donne que des belles codes, pratiquement.
Eh bien, écoute, de toute façon, on ne sait pas quoi mettre. Alors, autant mettre quelque chose. Hein.
Allez, Christophe. Aucune idée. Thibaut Pinot.
Non. Thibaut Pinot. Il l'a dit.
C'est là où il gagne demain.
Ouais.
Non, je sais pas, j'ai aucune idée.
Je choisis pour toi, c'est ça. Et Virginie, maillot à poids de ce tour.
Allez, je vais vous dire qui va vraiment gagner.
Chris Froome.
Richie Porte.
Oh non.
Pourquoi pas, arrêtez de me dire non à chaque fois.
Mais c'est un bon pari, les gars.
Thomas, peut-être.
Non, mais Virginie, t'es sûr qu'il est anglais?
Mais c'est pas grave, il fait partie de la Sky.
150 Richie Porte. Très belle cote. C'est
Paris Fair, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, on remercie Benoît, on remercie également Cyril qui va redescendre dans la vallée. Lucho et Thierry vont rester avec la porteuse du maillot à pois, la Dream Girl.
Voilà, il reste avec moi et surtout avec vous au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live jusqu'à 20h30. Évidemment, on va reparler de cette victoire de Chris Froome. Après, ce sera l'heure de notre page foot. Pas de jaloux, Lyon et Saint-Etienne seront équitablement représentés. Maxime Gonalon, le capitaine de l'OL, et Jérémy Clément, le milieu de terrain des Verts, seront nos invités. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.